Dans l'atelier en question, c'est particulièrement délicat parce que je pense que les situations de communication et les modalités de prise de parole sont extrêmement différentes et c'est ça qui me frappe en premier. Vous m'autoriserez à ne pas faire une synthèse, mais plutôt à proposer les réflexions que va inspirer l'animation parfois problématique de cet atelier. C'est-à-dire que ce que cet atelier sur les formes me semble avoir principalement remué déjà, c'est la question délicate du rapport dans les formes entre l'écriture, la parole et la communication. C'est-à-dire qu'il commence avec une analyse linguistique sur les contenus des échanges sur les forums électroniques, confrontés à la situation à la fois orale et médiatique du débat public, et il s'achève en fait sur une situation de locuteurs qui refusent de définir leur intervention comme un acte de communication, mais qui, d'une certaine façon, continuent de faire ce qu'ils font toujours et ce qui fait sens pour eux, c'est-à-dire écrire, et lisent ce qu'ils écrivent, en même temps que le public éprouve la frustration de les entendre lire ce qu'ils devraient lire, en fait, si ils se portent sur les sites qu'ils produisent. Et je trouve cette question intéressante parce que, précisément, c'est qui parle de l'écriture, est-ce qu'on peut parler de l'écriture, et on voit très bien que ce qui est, disons, notre usage habituel, semblant aller de soi, en sciences de l'information et de la communication, se trouve du coup un peu interpellé, et du coup c'est pas forcément, c'est jamais facile de reformuler, mais ça l'est plus ou moins en fonction des interventions, parce que certaines communications se présentent comme le résultat d'un travail, et d'autres sont en fond la manifestation de la seule réalité possible, celle de l'écriture, devant laquelle j'aurais plus grand chose à faire d'autre que me taire, au fond, avec tout ce que ça suppose aussi de rapport de pouvoir dans l'énonciation entre ceux qui se définissent comme chercheurs, comme artistes, comme praticiens. Et au fond, on sent très bien la présence possible d'un silence total par rapport justement à l'ampleur de ces enjeux et à la dimension de performance d'une écriture intraductible par la parole. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même essayer de résumer. Mais ça paraît quand même important. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, le premier exposé, donc proposé par Florimond Racotto-Noelina, portait justement sur le genre, la question du genre, débat. Et elle consistait à interroger cette question à partir des sciences du langage, pour combattre la conviction souvent répandue que la communication sur Internet produirait une sorte d'explosion des genres ou une rupture des genres. Et donc l'idée directrice, c'est que chaque texte s'inscrit dans des séries intertextuelles et que, évidemment, le texte d'Internet entretient des relations intenses, complexes, avec les textes qui l'ont précédé sur Internet, mais aussi en dehors d'Internet. Donc l'hypothèse qui est mise au travail, c'est de dire qu'il y a un genre débat qui se retrouve à l'intérieur du forum Internet, dont les marques peuvent être identifiées, comparables à celles du débat public, tel qu'il peut apparaître par exemple à la télévision, et en même temps, donc, dans un jeu de transformation et de conservation, il y a des termes plus techniques en linguistique, hein, mais qui permettent à la fois de poser la permanence d'une idée du genre, et en même temps une modification dans le débat. Alors, ceci a suscité plusieurs types de discussions. D'abord, ça nous a conduit à nous demander ce que c'était qu'un débat public, quel était le modèle du débat public qui était convoqué lorsque nous avions à analyser un forum comme un débat, le mot forum convoquant lui-même d'ailleurs une certaine image du débat. Et puis, il y a une réflexion aussi, effectivement, sur le dispositif, la place du dispositif, dans quelle mesure on peut considérer qu'une pratique écrite dans un dispositif informatisé est un équivalent d'une pratique orale, laquelle peut être profondément différente si elle se déroule dans une conversation ou dans un débat télévisuel. Donc, au fond, c'était la question du genre qui se trouvait aussi questionnée. Comment traiter la convocation par les acteurs de la communication, de modèles de cette communication, sans mobiliser une version figée du genre. Les deux interventions qui suivent, j'ai tendance à les regrouper, non qu'elles soient équivalentes, ni dans leur fond, ni dans leur forme, mais elles concernent une même question, qui est celle du projet éditorial sur Internet. Donc celle de Violette Dax sur la revue Ironie, et celle d'Audrey Camus et Jérôme Vogel sur le site pleutil.net, où il ne faut pas mettre de trait d'union quand vous vous y connecterez, ce qu'il faut impérativement faire. Alors, une posture de praticien et qui a conduit dans les deux cas à interroger la nature de la médiation, du moins c'est ce que j'en ai retenu, opérée par justement ces projets sur Internet, renvoyant à une pratique d'écriture et à une pratique de lecture essentiellement définie comme pouvant se développer ailleurs dans une temporalité plus profonde que la connexion Internet. Le site Ironie vise à s'inscrire dans la tradition d'une ironie pratiquée non comme un retrait du monde, mais comme une provocation à le penser et à le critiquer. Et de ce point de vue-là, il pratique le fragment comme moyen de faire signe vers des lectures, d'exciter la pensée du lecteur. Il pratique la gratuité comme mobilisation, utilisation des textes, et il vise une communauté invisible. Le site pleutil.net tient le pari, au fond, d'un quotidien Internet de l'écriture littéraire, en proposant la lecture d'un texte par jour, avec une réflexion graphique et éditoriale sur la façon de créer les conditions pour que ce texte, qui joue le jeu d'une lecture courte sur Internet, soit tout de même un texte lu avec la profondeur qu'exige la lecture littéraire. Projet qui concerne des lecteurs, pour les mettre en rapport avec des textes, les inviter à aller voir d'autres textes, mais qui concerne aussi des auteurs, dans une tentative pour leur permettre une relation différente avec leurs lecteurs, mais aussi établir entre eux, à travers la fourniture de quelque chose qui ressemble un peu à une coquille vide, mais qui se remplit justement de l'initiative éditoriale des auteurs, une façon d'établir des liens entre eux. Alors, ces deux communications ont suscité des discussions très importantes, à la fois sur la nature de la responsabilité éditoriale dans ce type de lecture, sur le sens de ce geste qui consiste à investir Internet, mais en même temps à faire signe vers d'autres lieux de l'écriture, et sur les rapports de pouvoir qui s'établissent à cette occasion-là, entre des gens qui assument une posture énonciative et médiatrice, et en même temps qui désirent que cette posture soit investie par les scripteurs eux-mêmes, par les lecteurs eux-mêmes, dans la recherche précisément de quelque chose qui serait à la fois assumé mais ouvert, du moins c'est ce que j'ai compris. Et quant aux dernières interventions, je dirais que ce qui me frappe le plus dans ces deux dernières interventions, celle de Hélène de Mars et celle de Philippe de Jonker, c'est les conditions dans lesquelles nous a été donné à entendre un texte écrit. Hélène de Mars nous a parlé, nous a dit un texte qu'il avait écrit, qui ne visait pas tant le sujet annoncé du passage du papier à Internet qu'une élaboration de ce que peut signifier aujourd'hui et engager pour un sujet écrire sur Internet. Dans un univers où triomphent les cybercornichons, où les discours psychotiques s'autorisent d'eux-mêmes, et où l'outil n'est jamais où il faut, toutes mes citations sont littéral, parce que je ne vais pas reformuler, ça ne se reformule pas. Un univers où le vide est aussi bien présenté que le plein. Donc, poser la question de ce que peut être l'écriture dans ce lieu où le terme de communauté est évidemment abusivement utilisé. Me semble-t-il, le souci à la fois de pratiquer, là encore, une ironie vis-à-vis de ce que prétend être cette pratique, mais en même temps de l'investir en tant que lieu où le sujet pose son geste. Philippe de Jonker a prolongé cette réflexion sur un autre mode, où, je ne sais pas s'il faut dire réflexion, cette écriture parlée, ce geste d'écriture, en nous faisant percevoir, par un retour sur notre situation, cet espace poreux que constitue une écriture diariste exposé aux yeux de tous, qui finalement dans ses ressorts n'est peut-être pas si différent dans ses ressorts scripturaux de ce que peut être l'écriture autobiographique ou diariste, mais qui précisément se fait sous les yeux de tous, ce qu'il a fait devant nous en même temps qu'il le commentait. Et tout cela n'a pas donné forcément matière à beaucoup de commentaires parce que le temps était écoulé, mais surtout sans doute parce que nous n'étions plus dans cet espace du genre du débat sur lequel avait porté nos premiers propos, mais plutôt dans une méditation sur cet écart irréductible entre l'écriture et la parole, et le fait que le commentaire ne peut pas forcément rendre compte de ce qu'est l'engagement du sujet dans son écriture.